Je vais parler d'un autre type de milieu par rapport à ce qui vient d'être évoqué, c'est la ville de Versailles, donc avec une grosse différence dans le substrat démographique, on va dire, mais des liens très forts au point de vue du rôle des élites républicaines qui a été évoqué. Alors pour commencer, si vous m'y autorisez, je voudrais, en cette journée de commémoration du 6 juin, vous parler d'un parachutage, en tout cas de ce qui ressemble fort d'un parachutage électoral. En 1865, Édouard Charton, fameux philanthrope saint-simonien, publiciste, pédagogue, fondateur du magasin Pittoresque, est élu conseiller municipal dans la ville de Versailles, ville dans laquelle il ne réside que depuis 2 ans. Donc c'est pour ça que je parle de parachutage électoral. Depuis 1825, en effet, il habite à Paris, après avoir grandi à Sens, dans l'Yonne, dont il est d'ailleurs le député en 1848. Or, en 1857 et 1863, il est battu aux élections législatives à Sens. Et c'est de cette époque, 1863, que date, étonnamment, son installation dans la ville où débuta la Révolution. C'est du moins l'explication très symboliste que donne Rémusat à son déménagement. Il explique que Charton a voulu s'installer à Versailles parce que c'était là qu'avait commencé l'événement fondateur de la France contemporaine. Alors, ce qui est surtout intéressant pour Charton, c'est qu'il retrouve à Versailles un groupe de républicains bien constitués, autour notamment d'Ernest Berceau, ancien professeur de philosophie au lycée de Versailles, donc l'actuel lycée Hoche, et qui avait été révoqué en 1852 après avoir refusé de prêter serment au nouveau régime impérial. Et Berceau est également rédacteur en vue du journal des débats. Ce petit groupe d'opposition qui s'est structuré autour de Berceau a, dans ce début des années 60, le vent en poupe, puisque aux mêmes élections de 1863, législatives, le candidat libéral en Seine-et-Oise, Barthélemy Saint-Hilaire, a recueilli à Versailles plus de 57% des voix. Donc Versailles est dans l'opposition. Et aux élections de 1865, les opposants au régime emportent, aux élections donc municipales cette fois, emportent 20 des 30 sièges du conseil municipal, ce qui fait de l'ancienne ville royale un nouveau bastion républicain d'opposition au Empire. Et c'est dans ce contexte politique que s'inscrit la création de la Bibliothèque populaire de Versailles, qui va faire l'objet donc de cette communication. Cette création, je dois avouer que c'est pas un sujet très original, elle a été étudiée en son temps par Noël Dauphin, à qui j'emprunte d'ailleurs ces quelques éléments d'histoire politique locale, étudiée par Noël Dauphin pour un colloque qui s'était déroulé en Allemagne, dont les actes sont hélas publiés en allemand, donc j'ai dû ressortir mes vieux dictionnaire franco-allemand pour trouver quelques éléments. Peu original également parce que cette bibliothèque populaire, on pourra en reparler, semble d'un modèle assez classique. Elle répond à un modèle préexistant dont se réclame d'ailleurs Édouard Charton lorsqu'il lance le projet et tente de l'expliquer. Ma perspective ici sera plutôt de voir comment cette bibliothèque populaire s'inscrit dans une politique culturelle locale, politique éducative locale, celle de la municipalité et des élites de la ville de Versailles, dans un contexte particulier, qui est celui des années 1860. Donc j'essaierai de voir comment elle s'inscrit, cette bibliothèque, dans un contexte notamment d'institutions culturelles et éducatives plus larges, qui est celui de la ville de Versailles. Et j'ajoute, pour terminer cette introduction, que je suis arrivé à la bibliothèque par cette étude de l'action culturelle locale, cette recherche sur la bibliothèque populaire n'est encore qu'à ses débuts, donc je pense que je vais soulever plus de questions que je ne pourrais donner de réponses, mais on pourra évidemment reparler de tout cela. Alors, en premier point, donc je redonnerai des éléments sur la création, les débuts de la Bibliothèque populaire de Versailles. Et ensuite, en deuxième point, je vous expliquerai un peu dans quel panorama des institutions culturelles elle s'inscrit. Et pour terminer, je verrai les différents projets qu'Édouard Charton a menés, qui constituent une véritable politique culturelle locale. Et ça permettra de mettre en perspective la création de cette Bibliothèque populaire. Alors, premier élément, donc, la création et les débuts de la Bibliothèque populaire de Versailles. L'idée de bibliothèque populaire à Versailles, elle est très ancienne, puisque dès 1789, le bibliothécaire du roi, Blaiseau, avait initié un projet de création qui n'a pas abouti pour un certain nombre de raisons qu'on peut imaginer. Et en 1848, la question de l'éducation populaire revient sur le devant de la scène au sein du Club de l'Europe, qui est fondé en novembre de cette année par le groupe très dynamique des Démoxoc versaillais, qui profitent de la révolution de février pour affirmer leurs idées. Alors, cette idée ancienne n'entre dans un processus de création qu'au début des années 60, en plein âge d'or des bibliothèques populaires, comme l'a caractérisé Noé Richter. C'est au même moment que sont fondées la bibliothèque des Amis de l'Instruction du 3e arrondissement, la Société Franklin, etc. Donc, en 1864, le 23 février, Édouard Charton envoie une lettre au maire de la commune, qui s'appelle Pierre Ploix, dans laquelle il lui annonce le projet qu'a imaginé un groupe d'habitants de la ville, projet de créer une société ayant pour but de fonder une bibliothèque populaire, dont il voudrait confier la présidence, évidemment, au premier magistrat de la commune, d'où la lettre de Charton. Parmi ce groupe d'une douzaine de fondateurs, on trouve à la fois des figures nationales, on va dire, du monde libéral, notamment Laboulaye, qui est le président du comité d'administration de la bibliothèque populaire du 5e arrondissement de Paris, ou bien encore Scherrer, rédacteur du journal Le Temps, et également des notables locaux, vous avez l'inspecteur d'académie Anquetil, le juge du tribunal de Versailles Durand, l'ancien vice-président du conseil des prud'hommes de la Seine, Paillotet, ou encore Horace de la Roche, qui est le fils du peintre Paul de la Roche. Alors, la lettre date du 23 février 1864. Le mois suivant, la société Franklin, qui a été informée du projet, l'appuie et demande son exécution prompte. Et le 9 avril, le préfet de Seine-et-Oise accorde l'autorisation de fonder la société. Reste à obtenir l'autorisation de fonder la bibliothèque elle-même, qui n'intervient que plusieurs mois plus tard, et cette bibliothèque est fondée le 15 décembre 1864. Alors, elle est installée d'abord au 64 rue de la Paroisse. Alors, pour ceux qui connaissent la géographie de Versailles, c'est le numéro à côté de l'actuel magasin Gibert. Dans un local donc assez réduit, où l'on ne peut installer dans un premier temps que quelques rayonnages, prêté d'ailleurs par la société Franklin, une table et deux chaises. Donc on ne va pas aller très loin avec ça. Donc très rapidement, en fait, la bibliothèque déménage au 1 rue de Jouvencelles, donc en se rapprochant du centre, notamment de l'hôtel de ville que vous avez en photographie en bas à droite. Elle déménage donc au 1 rue de Jouvencelles, dans un local cette fois-ci suffisamment grand pour qu'on puisse séparer le lieu de conservation et le lieu de consultation des ouvrages. Là également, on va pouvoir organiser des conférences du soir qui vont devenir une activité centrale de la bibliothèque. Alors, si on a changé de local, c'est parce que le fonds de la bibliothèque a cru très rapidement. Il est constitué au départ d'une centaine de volumes, mais il s'étoffe ensuite, comme le montrent ces quelques chiffres, donc à la fondation, une centaine de volumes. L'année suivante, on est déjà à 786 titres dans le catalogue de 1865. Et puis, vous voyez l'évolution assez rapide du nombre de volumes, puisque au bout d'une dizaine d'années, on est déjà à 10 ou 11 000 volumes. C'est l'estimation qu'en donne Édouard Charton. Bon, je vous ai mis pour comparer les chiffres que donne Noé Richter sur la bibliothèque du 3e et la bibliothèque de Blebenheim. Donc, on est dans une bibliothèque particulièrement bien achalandée, bien fournie, grâce surtout aux dons des particuliers qui sont la source quasi exclusive d'alimentation des collections. En octobre 1870, la Bibliothèque populaire reçoit un don de 5000 ouvrages d'histoire, de l'art et d'architecture, ce qui lui permet d'atteindre ces chiffres assez importants du début des années 1870. Alors, parmi ces fonds, dont Noël Dauphin a fait une analyse pour l'année 65, on notera, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la place assez importante de la littérature, puisque théâtre plus roman forment un tiers des collections, devant les ouvrages d'histoire naturelle et d'agriculture, 18%, l'histoire, les voyages, 8%. Édouard Charton est lui-même un important contributeur. Les premières cotes du catalogue, d'un point de vue assez symbolique, sont des œuvres dont il est le père. La première cote du catalogue, c'est le magasin pittoresque qu'il a fondé au début des années 1830. La deuxième cote, c'est le Tour du Monde qu'il a fondé avec Louis Hachette la même année 1864. Et la troisième cote, c'est son volume sur les voyages anciens et modernes. Et puis dans les 10 premières cotes, il est présent 7 fois, je crois. Il est au premier plan de sorte de tête de gondole, si vous voulez, du catalogue. Alors, le public est au rendez-vous. On a quelques éléments sur ce public. Il est astreint à un abonnement de 50 centimes par mois, ce qui correspond, je crois, aux chiffres qui ont été donnés tout à l'heure de prix. Il se recrute essentiellement parmi la population ouvrière. Toutefois, comme l'indique l'historique qui est situé en ouverture de l'édition du catalogue de 1874, la population ouvrière de Versailles est assez limitée. C'est pas vraiment une banlieue ouvrière, comme vous le savez. On trouve également parmi les usagers, je cite le catalogue, un grand nombre d'étudiants, d'employés, de militaires, de commerçants et de rentiers. Fin de la citation. Donc on retrouve là des éléments de la sociologie historique de Versailles sous le Second Empire, puisque la ville compte 44 000 habitants en 1861, donc on est bien au-dessus des chiffres qui ont été donnés à l'instant, ce qui en fait d'ailleurs la commune la plus peuplée d'Île-de-France après Paris. Et sur ces 44 000 habitants, on trouve près de 10 000 militaires, dont une bonne partie est de tendance républicaine, voire radicale, donc plutôt favorable à cette initiative. Les républicains versaillais, d'ailleurs, recrutent beaucoup de leurs électeurs parmi les métiers du commerce aussi. hein, à cette époque-là. Autant de groupes donc sensibles aux efforts en faveur de l'éducation populaire et aux discours qui les portent. Le bilan de l'activité de la bibliothèque montre son succès sur les premières années. Vous avez là le chiffre d'évolution du nombre annuel de prêts accordés par la bibliothèque. Hein. On passe de 2000 prêts pour l'année 1865 à 7000, donc ça triple hein, dans les premières années en 1869, avant les perturbations provoquées par l'année terrible et l'occupation de Versailles par l'armée prussienne. Hein. Bismarck s'installe dans l'actuelle préfecture. Et même si la bibliothèque reste ouverte pendant la période de l'occupation, évidemment, son activité s'en trouve perturbée. Donc on voit que la bibliothèque populaire s'impose rapidement comme une institution culturelle importante par son utilité, une véritable demande. Et elle s'inscrit pourtant dans un réseau déjà bien constitué que je voudrais évoquer en deuxième point, puisque la ville de Versailles est dotée d'institutions pour l'éducation populaire assez nombreuses, à commencer bien sûr par les institutions scolaires. On compte au début des années 60, à Versailles, 6 salles d'asile qui accueillent environ un millier de jeunes enfants, 6 écoles élémentaires de garçons, toutes gratuites, qui accueillent à peu près un millier d'élèves également, alors 3 écoles religieuses, 3 écoles laïques, c'est à égalité en nombre d'écoles, mais les écoles religieuses accueillent 570 élèves contre 380 aux écoles laïques. On trouve également 4 écoles élémentaires de filles qui reçoivent 720 élèves, toutes religieuses, toutes tenues par les sœurs de Saint-Vincent de Paul et les sœurs de la Sagesse. Il faut ajouter à ces établissements scolaires une école primaire supérieure ouverte en 1864, justement, une école normale d'instituteurs créée en 1831, juste avant la loi Guizot, et qui est gérée, donc, elle, par l'État, pas par la commune, et enfin, déjà, des cours du soir, des cours d'adultes, de chant, de dessin, de géométrie ou de beaux-arts, qui accueillent environ 700 adultes hein, chaque année dans ce milieu des années 60. Alors, à côté de ces établissements d'enseignement, s'ajoutent 2 autres institutions financées tout ou partie par la mairie et susceptibles de jouer un rôle dans l'éducation populaire. La première, c'est la bibliothèque municipale de Versailles, qui a été fondée en 1804, qui est beaucoup plus ancienne, et qui fut longtemps dirigée, très exactement de 1845 à 1873, par Joseph Leroy, ça ne s'invente pas, édile bien installé de la cité, dont la femme donne des cours de piano d'ailleurs, et qui participe d'ailleurs au conseil d'administration de la bibliothèque populaire. Donc il y a un lien entre les deux institutions. Cette bibliothèque est particulièrement bien équipée, avec ses 62 000 ouvrages en 1863, qui la place au 5e rang des bibliothèques communales en termes de fonds en France. Deuxième institution qui peut jouer un rôle d'éducation populaire, c'est le théâtre, l'actuel théâtre Montansier, qui est ouvert en 1777. C'est un élément important du prestige culturel de Versailles. Il est dirigé à l'époque du Second Empire, hein, entre 1859 et 1866, par Frédéric Lemaître, fils, donc le fils du grand acteur Frédéric Lemaître, qui invite même régulièrement son prestigieux père à venir jouer à Versailles. Mais dans ce lieu de culture plutôt élitaire, la commune tient également à accueillir un public plus démocratique, plus populaire, hein, en mettant en place une politique de bas prix censée attirer ce public plus populaire. Alors, il y a beaucoup d'autres institutions culturelles à Versailles, mais qui ne relèvent pas forcément de l'éducation populaire. Vous avez des sociétés orphéoniques, des sociétés savantes, un champ de course qui ferme en 1864 parce que le terrain, paraît-il, est beaucoup trop lourd. Le lycée impérial, fondé en 1803, qui est l'actuel lycée Hoche. Ce qu'il manque, c'est un musée municipal. Il y a un musée à Versailles, évidemment, qui écrase, évidemment, de sa puissance toute possibilité d'activité muséale dans la ville. Toutes ces institutions ne participent pas, évidemment, forcément directement à l'éducation populaire. Donc on voit malgré tout que la ville de Versailles se trouve relativement bien structurée en termes d'offres d'éducation et de diffusion de la culture. Et donc la bibliothèque populaire qui est créée en 64 n'est qu'un élément de plus en faveur de l'instruction du peuple. Elle est une institution indépendante de la commune, de la municipalité, mais elle se trouve à l'occasion évoquée dans les rapports financiers de la commission de l'instruction publique au sein du conseil municipal, et elle est montrée comme complémentaire de l'action publique, de l'action de la municipalité. Un élément essentiel donc qui s'inscrit dans une stratégie clairement définie par les édiles républicains versaillais qui ont désormais le pouvoir, en tout tout cas une partie d'entre eux, dans la commune à partir de 1865, au premier rang desquels figure Édouard Charton. La création de cette bibliothèque n'est que le premier élément d'un ensemble plus vaste d'initiatives qui constitue une véritable politique culturelle et éducative locale. Et je terminerai donc par ce thème cette intervention. L'importance de ces institutions culturelles et d'éducation témoigne du volontarisme de la ville de Versailles en matière d'éducation. Elle y consacre une part relativement importante de son budget. En 1865, le budget primitif de la commune accorde 14% des dépenses à tout ce qui est action culturelle et éducative. C'est 16% en 1875, donc on est à peu près dans les mêmes eaux. Bon, si on prend en compte, pardon, d'entrer dans ces détails un peu comptables, les dépenses extraordinaires, les dépenses supplémentaires, bon, ça réduit de moitié, c'est à peu près 8% du budget définitif de la commune. Mais c'est un effort quand même assez important, quasiment 10% du budget de la commune y est consacré. Et notons à titre d'exemple que avant même la loi Ferry de 1881 sur la gratuité de l'instruction primaire. Et avant même la loi Duruy de 1867 qui encourage cette gratuité, toutes les écoles primaires de la ville, comme je l'ai dit, sont gratuites. Et tous leurs enseignants sont payés par la municipalité. Ça représente le tiers des dépenses culturelles et d'éducation de la commune. La commune finance également des bourses. Elle finance à hauteur de 8% de son budget la bibliothèque municipale. Elle finance le théâtre. Donc il y a une véritable politique culturelle et éducative de la commune. Édouard Charton, qui arrive donc au conseil municipal en 1865, va jouer un rôle majeur désormais dans cette politique. Son action se concentre surtout au sein de la commission du budget de l'instruction publique, qui gère ces questions d'éducation et de culture, dont il est membre chaque année et souvent, très souvent rapporteur au sein du conseil municipal. Alors, il y prend un certain nombre d'initiatives, il lance des propositions qui le pose vraiment comme, mais bon, il n'avait plus rien à prouver en la matière, comme un défenseur de la diffusion des savoirs et de l'éducation populaire en tant qu'élément d'une véritable politique culturelle. Dans le rapport sur le projet de budget pour 1867, qu'il lit lors de la séance du 13 juin 1866, il formule au nom de la commission trois propositions. La première, c'est la création d'une école laïque de filles, parce que comme on l'a vu, toutes les écoles étaient religieuses, ce qui ne manque pas évidemment de déplaire au républicain qu'il est. Il reprend d'ailleurs régulièrement sa proposition au fil des mois, alors que la municipalité semble traîner des pieds, et c'est seulement en 1869 que le projet pourra aboutir. La deuxième proposition concerne également l'enseignement féminin, c'est de créer des cours secondaires à destination des jeunes filles. Cette proposition est également réitérée un an plus tard et trouve un écho favorable après que le ministre Victor Duruy a publié en octobre 1867 la fameuse circulaire encourageant la création de tels cours. Cette initiative soulève, on le sait, des tempêtes de protestation au sein des milieux cléricaux, mais elle trouve en Édouard Charton un farouche partisan et n'hésite pas à en faire l'éloge en pleine séance du conseil municipal, en dépit du devoir de neutralité des membres du dit conseil. Bon. Troisième proposition, réunir en un seul établissement les différentes écoles d'art qui existent à Versailles. Proposition donc qui s'inscrit dans un contexte bien connu là encore de volonté de soutenir la concurrence internationale en termes d'art industriel, nécessité apparue avec les expositions universelles de 1851, 55 et 62. L'enseignement du dessin, on le sait, apparaît depuis plusieurs années comme un élément stratégique qui doit permettre une meilleure formation des ouvriers, des techniciens. Donc on est là encore vraiment dans une perspective d'éducation populaire. À côté de ces trois propositions, deux autres initiatives sont prises par Édouard Charton qui témoignent de ses ambitions. La première, c'est le projet en novembre 1866 d'ouverture dominicale de la bibliothèque municipale. Donc pas populaire, mais la bibliothèque municipale, afin de permettre aux travailleurs de la semaine de s'y rendre, comme dans bien d'autres bibliothèques. Cette mesure représente évidemment une dépense supplémentaire, il faut payer le chauffage, il faut payer le personnel, mais elle est acceptée par les édiles versaillais, qui sont tous convaincus des bienfaits que la lecture peut apporter à la population ouvrière de Versailles, à tel point qu'il est également envisagé d'ouvrir plusieurs soirs par semaine cette bibliothèque municipale. La mesure est expérimentée dès 1867 et en dépit finalement des réticences de certains membres qui s'expriment au bout de quelques mois, elle est soutenue par l'administration municipale. Et enfin, dernier projet, dernière initiative, c'est la défense du rôle éducatif du théâtre Montansier. Édouard Charton croit nécessaire en 1865 de défendre le rôle de l'autorité municipale en matière de théâtre. On est l'année qui suit la libéralisation des théâtres, hein, et l'ouverture plus grande au secteur privé de cette activité théâtrale. Pour Charton, le théâtre relève, je cite, de l'intérêt public. C'est lui aussi un instrument d'éducation et de moralisation, et les autorités publiques ne peuvent laisser à l'industrie privée l'intégralité de cette activité sans, dit-il, craindre de voir le théâtre devenir préjudiciable à un intérêt public d'ordre très élevé. C'est donc, pourrait-on dire déjà, une défense du théâtre comme service public que propose Édouard Charton, service public d'éducation. Il est d'ailleurs soucieux de la qualité de ce divertissement, hein, ce qui propose également que la scène de Versailles accueille régulièrement des comédiens de Paris. Alors, pour conclure sur cette présentation, on voit bien que la bibliothèque populaire est, entre le théâtre et les écoles, un élément d'un programme cohérent inscrit dans les grands courants de pensée de l'époque, favorables au développement de l'éducation populaire, qui concerne tant les institutions culturelles qu'éducatives. Et d'ailleurs, Édouard Charton l'explique dans son rapport sur le budget de l'instruction publique au champ 67, je cite, « Dans une commune où toutes les conditions sociales sont représentées par des chiffres assez importants, il est bon que chaque citoyen ait à sa disposition les moyens successifs de s'éclairer et d'acquérir, selon sa vocation et le temps dont il peut disposer, depuis les plus simples éléments des connaissances humaines jusqu'aux plus élevés. Versailles est sur la voie de donner une satisfaction presque complète à cette légitime ambition des esprits qui n'a jamais été plus impérieuse que de notre temps. Asile, école de l'enfance, cours d'adultes, instruction élémentaire, supérieure, chant, dessin, voilà le premier degré. Lycée, bibliothèque, conférence, voilà le second. Et au-dessus, s'étage les sociétés scientifiques où trouvent à s'exercer, à se récréer les goûts et les aptitudes les plus variés. Les spectacles et les fêtes publiques, ce perfectionnement, pourraient couronner dignement l'édifice, et c'est ce qu'il ne faut pas désespérer d'atteindre. L'éducation populaire, donc, je termine, et notamment la bibliothèque qu'il contribue à fonder en 1864 à Versailles, figure donc au cœur d'un vaste projet culturel que Charton souhaite voir pris en main par les autorités publiques, à l'échelle de la commune bien sûr, mais aussi à celle de l'État, et c'est ce programme qu'il tiendra à défendre également au niveau national à partir de 1871 en tant que sénateur, fonction qui lui permettra d'être l'un des premiers défenseurs de l'idée d'un service public de la culture. Je vous remercie.